Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie. Donc aujourd'hui, c'est la dernière de l'année 2005. Je reçois Ophélie, qui est lectrice et qui va nous parler de deux livres qu'elle a aimés. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Voilà, donc c'est la dernière de Page à Page, comme je vous le disais. Donc je vous rappelle que en attendant de se retrouver en début d'année prochaine, c'est-à-dire le 5 janvier, je vous redonne l'adresse du site de l'émission, si vous voulez écouter celles qui ont parsemé l'année cette année. Donc c'est Page à Page Toulouse, en attaché, en minuscule, sans accent sur le A, .free.fr, free fr2e bien sûr, et vous pouvez ainsi donc retrouver les émissions que vous avez aimées ou celles que vous n'avez pas pu écouter dans l'année. Sinon, je vais vous parler donc de deux livres avec Ophélie, dont un, nous avons reçu l'auteur la semaine dernière, qui est Maxime Vivas. Nous allons parler donc de son livre « La Tour Eiffel et le cocotier », car Ophélie donc a beaucoup aimé ce livre. Elle va nous en parler elle-même tout à l'heure en nous lisant d'ailleurs un passage de ce livre très rigolo. Et nous parlerons également d'un autre livre qui s'intitule « Une heure, une vie » de Jeanne Benhammer aux éditions Thierry Magnier à Paris et qu'elle a beaucoup aimé également. Donc, nous allons commencer par « La Tour Eiffel et le cocotier » de Maxime Vivas. Je vais vous rappeler un petit peu l'histoire. Nous en avions un petit peu parlé donc jeudi dernier en compagnie de l'auteur. Je vais vous rappeler le résumé de l'histoire avant de laisser la parole à Ophélie. Alors, La Tour Eiffel et le cocotier, donc de Maxime Vivas, aux éditions du Léopard Masqué. C'est un petit livre donc on peut qualifier de roman humoristique, qui n'est pas très épais et qui est vraiment très rigolo. Donc, comme nous l'avait dit l'auteur la semaine dernière, vous pouvez encore, pour un petit cadeau de Noël à un adolescent ou à un adulte, peu importe, faire ce petit présent. Alors, le résumé de l'histoire. Quand on découvre que Paris est une terre d'asile de fous. Paris la merveilleuse. Notre héros, qui pourrait s'appeler aussi Candide, ou le Huron, ou l'Indien dans la ville, ou le Persan, débarque d'une île paradisiaque pour découvrir la Tour Eiffel. Il va se frotter aux modes d'emploi qui font le bonheur de la vie urbaine et civilisée, portable, dépannage en ligne, montage de meubles, aux us et coutumes dans le métro et dans les fast-foods, aux mœurs des chauffeurs de taxi et des gardiens d'immeubles, des banquiers et des masseuses relaxologues aux huiles essentielles, et ne disons rien de son premier contact avec ces drôles de chewing-gums, roses, à ourlets, dans les distributeurs accolés aux murs d'église signalés par des croix vertes clignotantes. Donc voilà, j'ai dressé ici le petit résumé de ce livre et je vais laisser la parole à Ophélie, donc qui a quel âge tu as Ophélie?
13 ans et demi.
13 ans et demi. Donc tu as lu ce livre qui est donc destiné au départ aux adultes, mais en fait qui finalement apparemment peut également plaire aux adolescents.
Oui.
Donc qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce livre, La Tour Eiffel et le cocotier?
Ben l'auteur, il a déjà été dit, donc c'est Maxime Vivas.
Oui, qu'on a reçu donc la semaine dernière.
Voilà, c'est un roman humoristique.
Mm-hmm.
Donc ça se déroule à Paris et à notre époque.
Mm-hmm.
Le personnage principal est un homme motapien.
Alors qu'est-ce que c'est un homme motapien?
Ben c'est un homme qui vient de Motapa.
Oui, mais enfin bon, il faut dire que quand même, l'île de Motapa n'existe pas. On aura beau la chercher toute la planisphère, voilà, il faut préciser que c'est une île imaginaire, qui vient donc d'une île lointaine, imaginaire.
Voilà. Le personnage, donc, au début du récit, il est à Motapa, mais son projet est d'aller à Paris et de monter tout en haut de la Tour Eiffel.
Mm-hmm.
Donc, il nous explique comment un étranger voit la vie quotidienne entre les modes d'emploi, les piles, etc. Donc... Donc le résumé, c'est un homme débarque à Paris, il vient de Motapa et est venu pour monter tout en haut de la Tour Eiffel. Il va devoir comprendre les modes d'emploi, les portables, les dépannages en ligne, les montages de meubles et aussi les coutumes dans le métro, dans les fast-foods, les gardiens d'immeubles, les banquiers. Et on s'aperçoit donc de la vie en général avec humour.
Oui, fait, la vie en général, oui, enfin la vie à Paris, vue par quelqu'un qui n'est
étranger.
Pas du tout, voilà, qui n'est pas du tout habitué à ce genre de. Le mieux, ça serait peut-être que tu lises. Tu as encore autre chose à dire?
Oui, mon opinion.
Ah ben oui.
Alors j'ai beaucoup aimé ce livre car il nous apprend la vie de tous les jours avec beaucoup d'humour. On dirait un peu l'histoire de Tarzan qui débarque dans une ville qu'il ne connaît pas.
Oui, c'est vrai que ça fait penser un peu à Tarzan qui pourrait effectivement débarquer dans une ville dite civilisée et qui effectivement est un peu perdu. Je pense que ça serait peut-être plus pour nos auditeurs de lire un ou deux passages pour montrer un petit peu comment ça se déroule. Donc il faut dire quand même que le livre est divisé, comme je l'avais dit la semaine dernière, en chapitres avec les 7 jours de la semaine, de lundi à dimanche. Donc le lundi. Avec les heures, oui. Donc le lundi, le personnage dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, le lundi, il débarque à Roissy, à Paris, de son île donc imaginaire de Motapa. Et le dimanche, dans la même semaine, à la fin de la semaine, il retourne dans son île de Motapa et il quitte donc définitivement la capitale de la France.
Voilà.
Et donc tous les jours de la semaine sont égrenés d'aventures, de rocambolesques, de son apprentissage de la vie dans la capitale.
Voilà.
Alors qu'est-ce que tu vas nous lire là? Tu peux situer le passage que tu lis, hein?
Oui, donc c'est un mardi.
Donc c'est le mardi.
Voilà,
quoi,
le mardi à 11h20. Donc oui. Il a faim, donc il va essayer de trouver un restaurant.
Donc voilà, il arrive dans la capitale le lundi, et donc voilà, il essaie de trouver un restaurant. On lui a dit que Paris c'était une ville où on mangeait très bien et très gastronomique, et donc il cherche un restaurant qui se rapproche de ce qu'il pense de la gastronomie française. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il débarque. Donc je te laisse lire pour laisser le suspense.
11h20, je cherche un restaurant avec l'intention de goûter à la gastronomie régionale. J'avise un établissement qui doit être de première qualité, si j'en juge par l'affluence. Les gens font la queue devant des guichets. Les plats proposés sont affichés, en anglais, sur des panneaux multicolores très gais. À la bonne heure, voilà qui met en appétit. Pour ne pas attirer l'attention et ne pas avouer mon ignorance, je tends l'oreille quand le gourmet qui me précède exprime son choix. Un hamburger, des frites et un coca. Je le regarde repartir avec un repas frugal. Comme j'ai grand faim et grand soif, je commande 5 hamburgers, 5 sachets de frites et 5 coca. À la demande de la serveuse, je réponds grand pour les coca. 11h40, elle me sert sur un plateau et je vais m'attabler, debout, sur un haut guéridon. La nourriture est molle, sucrée, salée, et la boisson marron, pleine de bulles. J'avale tout en moins de 2. J'ai un peu de mal avec les 5 sodas. Après quoi, je suis victime de spasmes stomacaux de plus en plus violents. 11h44, je vomis dans le meuble où j'ai vu les convives vider leur relief de repas. Un noir de 2 mètres en blazer croisé me saisit au col, me soulève et m'expulse.
Voilà. Alors donc, en fait, on s'aperçoit qu'en guise de restaurant gastronomique français, il débarque donc dans un fast-food. Et donc, comme il a bon appétit, il prend tout en quantité assez impressionnante. Et bon, évidemment, son estomac ne supporte pas cette nourriture nouvelle pour lui. Il n'est pas du tout habitué à ce genre de régime. Et donc, en fait, il va se servir donc de là où on met les déchets, quoi. Pour vomir, quoi,
voilà.
En fait.
Et donc, j'en ai un deuxième de passage.
Un deuxième passage. Donc ça, c'est son passage, voilà, au restaurant, en croyant qu'il va manger un repas gastronomique.
Donc là, en fait, c'est quand on appelle et que c'est en ligne, là.
Dépannage en ligne.
Voilà, dépannage en ligne.
Donc voilà, il a un problème, donc, avec un appareil qu'il a acheté.
Ouais.
C'est quoi comme appareil qu'il a acheté?
C'est sur la télé.
D'accord, il a acheté une télé, il ne sait pas il ne sait pas la régler, il ne sait
voilà.
pas la
il sait pas faire, il sait
la
pas
programmer.
Voilà. Donc jeudi.
Oui.
17h25. Gloups, grat grat, téléphonons. Allô, le 0811 11 22 33. 0811 11 22 33, veuillez patienter. Tous nos conseillers sont en ligne. Ah, vous préférerez que je rappelle plus tard? 0800 11 11 22 33, veuillez patienter, tous nos conseillers sont en ligne. Je raccroche. 0800 11 11 22 33, veuillez patienter, tous nos conseillers sont en ligne. Oui, merci madame, je sais. Pourriez-vous me rappeler ? 0811 11 22 33, veuillez patienter. Tous nos conseillers sont en ligne. Clic, clac. Bonjour, un de nos conseillers va prendre votre communication. Si vous possédez un Toshini B60 référencé RTM C14721WXHP03321MLK01-1477PZ258K01, tapez 1. Si vous possédez un téléviseur Toshini B60 référencé RTM C14721WXHP03321MLK01-1477PZ258K02, tapez 2. Si vous possédez un téléviseur Toshini B60 référencé RTM C14721WXHP03321MLK01-1477PZ258K03, tapez 3. Pour un autre appareil, tapez 4. Vous pouvez répéter ? Pour un problème technique, appuyez sur la touche dièse. Pour un problème de programmation, tapez étoile. C'est un programme de programme... Nous n'avons pas compris votre demande. Si vous possédez un téléviseur Toshini B60 référencé RTM, c'est 14721WXHP03321MLK01-1477PZ258K, tapez 1. Je raccroche et décide d'aller directement m'expliquer avec le fabricant.
Oui, alors là, notre héros s'est frotté un peu au problème des répondeurs qui font des réponses pas du tout adaptées au problème. C'est des enregistrements, des disques, oui. Et lui, il a pas compris que c'était un disque. Et bon, il croit parler à la personne et il y a personne au bout, en fait, voilà. Au bout du fil.
Voilà.
Donc voilà, notre personnage, notre héros est bien embêté face à toutes ces aventures, bon, qui pour nous sont monnaie courante, hein, on va dire. Hein. Toi, tu sais te servir, j'imagine, d'une télécommande, d'un portable, d'un ordinateur. Tu sais, t'aimes bien les fast-food, j'imagine.
Oui, ça va.
Oui, voilà, ton estomac se sent bien même après.
Oui, oui.
Voilà, voilà. Et donc lui, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait l'humour de ce livre, je pense, c'est ce décalage qu'il y a entre
un étranger et un parisien. Donc
entre la vie donc dans une île paradisiaque et puis Paris vu par quelqu'un qui arrive donc
d'étranger.
Voilà. Et dans un deuxième temps, peut-être on pourrait dire aussi, bon, il se frotte à pas mal, il rencontre pas mal de personnes et bon, tu as sûrement remarqué qu'il y avait beaucoup de, on s'aperçoit que lui, il se moque gentiment de lui-même quoi. C'est quelqu'un de gentil, ce Motapia.
Oui, il est très gentil. Oui.
Par rapport à certaines personnes qu'il peut rencontrer à Paris.
Oui.
Le gentil n'est pas forcément le plus civilisé, on pourrait dire. C'est pas forcément celui qui vit dans une ville la plus civilisée qui peut être le plus agréable à vivre.
Oui, oui.
Tu es d'accord avec ça ?
Oui.
On va faire une petite pause musicale avant de parler donc du second livre. Donc c'était La Tour Eiffel et le Cocotier par Maxime Vivas. Donc un livre vraiment à recommander et pour les adultes et pour les adolescents, parce qu'Ophélie donc l'a aimé et elle a 13 ans et demi et qui est vraiment très très rigolo. Donc après une pause musicale, on parlera du second livre qu'elle a bien aimé.
be a movin'. Rock it to the groove, done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mindset, yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show ya. You want to groove? I'ma show ya.
Page à page, Claire Ambille.
Vous revoici donc dans votre émission Page à page en compagnie d'Ophélie, 13 ans et demi, qui nous a parlé donc du livre de Maxime Vivas, La Tour Eiffel et le Cocotier, et qui maintenant va nous parler d'un autre livre qu'elle a aimé, qui s'intitule Une heure, une vie, et qui est écrit par Jeanne Benhammer, et c'est aux éditions Thierry Lemanier à Paris. Donc c'est un roman qui est de niveau collège, donc de entre 10, 11 ans jusqu'à à peu près 15 ans, on va dire, Ophélie.
Oui.
Voilà. Donc l'auteur, c'est Jeanne Benhammer, qui est née de métissage de l'Italie et de la Tunisie. Et depuis toujours, le livre est une porte ouverte sur le monde pour cette auteure. Il était donc naturel qu'un jour elle se mette à écrire. Et aujourd'hui, c'est avec la lecture et l'écriture qu'elle continue son chemin. Donc Jeanne Benhammer, qui a donc écrit Une heure, une vie. Donc je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture pour vous situer un peu l'histoire, et après je laisserai Ophélie nous en parler un peu plus longuement. Famille décomposée tranquille, les parents d'Aurélie se séparent sans drame. Bien. Si bien qu'Aurélie ne trouve plus de place pour dire sa peine. Traversée de questions sur l'amour, déchirée de ne pas oser en parler, elle n'a d'issue que dans le mensonge. Après le week-end chez son père, dans le train qui la ramène chez sa mère, Aurélie s'invente donc une vie chaque fois différente, toujours tragique. Elle le raconte, et si l'histoire est imaginaire, les larmes ne le sont pas. Qui pourra l'aider à parler vraiment ? Alors, Ophélie, ce roman, donc, Une heure, une vie, avec ce personnage d'Aurélie, qui est une jeune adolescente, dont les parents sont séparés, sont divorcés, et qui n'arrive pas à trouver, qui fait donc un week-end sur deux, j'imagine, le chemin entre son père et sa mère pour aller passer un week-end chez l'un, chez l'autre.
En train.
Et en train, voilà. Et donc dans ce train, bon bah forcément, elle a du temps pour penser, pour ressentir sa peine, la peine qu'elle a par rapport à ses parents qui divorcent, j'imagine. Et puis bon, par rapport à plein de questions qu'elle se pose, qu'on se pose notamment à la période de l'adolescence.
Oui.
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 Donc.
Je vais vous présenter le livre. Alors.
D'accord.
Donc le genre, c'est un roman. L'auteur, c'est Jeanne Benhammer. Les personnages du livre sont Aurélie, ses parents Agnès et Manuel. Le résumé, c'est Aurélie apprend que ses parents vont divorcer. Elle a du mal à comprendre pourquoi. Très vite, elle sent qu'elle est triste, mais que ses larmes ne veulent pas sortir. Un jour, dans le train, elle est assise à côté d'un vieux monsieur. Ses larmes lui viennent brusquement. Le monsieur s'en aperçoit, il décide de lui parler. Aurélie raconte une vie qui n'est pas la sienne. Elle dit que son père est en prison. Chaque semaine, quand elle reprend le train, elle s'imagine une autre vie. Elle est orpheline, que son copain est atteint d'une maladie, jusqu'au jour où un jeune garçon arrive pour s'asseoir à côté d'elle, avec un large sourire et 3 paquets de mouchoirs. Donc moi j'ai adoré ce livre parce qu'il dégage de la peine, de la tristesse. Il est bien écrit, c'est-à-dire qu'il est facile à comprendre. Et j'ai adoré toute l'histoire.
Tu t'y es retrouvée, enfin je veux dire, tu t'as adoré l'histoire, pourquoi tu peux étayer un petit peu, dans le sens où, bon, je sais pas, les questions qu'elle se pose, est-ce que toi-même tu te les poses ?
Non, parce que quand elle s'inventait des histoires, c'était comme ça, ça venait tout seul, et c'était pas rigolo, mais dans le fond, quand même, c'était...
Elle a beaucoup d'imagination.
Voilà.
Mais est-ce qu'à la fin, est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, est-ce que ça finit bien, ce livre ?
Oui, ça finit bien, oui.
Oui, est-ce qu'elle trouve une solution à son problème ? Parce qu'en fait, elle n'est pas bien, cette jeune fille. Elle se sent mal, quoi.
Ben oui, oui.
Elle a un problème. Est-ce qu'elle arrive à résoudre son problème à la fin du livre ?
Oui, elle arrive à résoudre une partie de son problème.
Oui, bon, c'est sûr, ses parents ne vont pas forcément arrêter de divorcer. Voilà. Mais est-ce qu'elle, est-ce qu'elle trouve une place, justement ? Est-ce qu'elle arrive à trouver sa place ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Avec l'aide de quelqu'un, il va y avoir un personnage. Un peu... Voilà, donc il y a le vieux monsieur aussi comme personnage dans ce livre.
Oui, mais c'est pas vraiment un personnage principal,
d'accord.
C'est juste
Il y aura un autre personnage...
Plus important.
Plus important. Alors, tu vas nous lire 2 passages. Donc, le premier passage, ça se situe à quel moment de l'histoire ?
Ça se situe dans un moment dans le train qu'elle raconte un de ses mensonges.
Au vieux monsieur, justement ? Non, à quelqu'un d'autre ?
Non, à deux filles.
À de son âge, elle raconte encore une de ses histoires inventées.
Voilà.
D'accord, donc je te laisse lire.
Mes parents sont morts dans un accident de voiture, tous les deux, ensemble, il y a 1 an. Moi, j'étais à l'arrière. J'en ai réchappé miraculeusement. Ils se disputaient tout le temps. Cette fois, c'était encore plus terrible que d'habitude et j'avais eu envie de vomir à force de les entendre. J'avais demandé qu'on s'arrête. C'est en voulant aller trop vite sur le bas-côté que mon père a fait une fausse manœuvre. C'était terrible. Je ne veux pas raconter. Je ne me rappelle plus de rien, jusqu'à l'hôpital. Quand j'ai compris qu'on ne serait plus jamais ensemble, j'ai cru mourir moi aussi. J'ai envie de mourir, comme eux deux. Les larmes coulent. Les deux filles ne disent pas un mot. Elles ne m'interrompent pas. Je continue. Maintenant, je suis placée dans un foyer. Je vais chez ma tante tous les week-ends. Ma tante ressemble beaucoup à ma mère. Elle me la rappelle, bien sûr. Alors, quand je rentre, toute seule, au foyer, je repense à tout, et c'est l'horreur. Je me dis que c'est à cause de moi l'accident. C'est à cause de moi qu'ils ne sont plus là. C'est ma faute, tout. La fille au baladeur a posé ses écouteurs. Elle secoue ses longs cheveux en même temps et écarte une mèche de devant son front. C'est pas ta faute, c'est un accident. C'est terrible, mais c'est un accident. Elle a un geste très doux du bras pour me mettre la main sur l'épaule. Elle me regarde. C'est le destin, tu sais, c'est pas toi. Son ami ajoute. Et puis, s'ils se disputaient très fort, ton père ne pouvait plus faire attention à la route. C'est ça aussi. Je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que j'y suis pour quelque chose.
Donc ça, c'est une partie donc, du livre où elle raconte une de ses histoires terribles pour expliquer pourquoi elle est triste. Et elle invente donc ses parents qui sont morts alors qu'en fait, ils sont simplement séparés. Tu as un autre passage, peut-être pas trop long ?
Oui, j'en ai un. C'est dans le même mensonge, en fait. C'est
d'accord,
un peu plus tard.
D'accord, un peu plus tard.
Parfois, j'en crève de ne pas leur crier « Si je n'avais pas été là, est-ce que vous seriez encore ensemble aujourd'hui ?» Je murmure. « Si je n'avais pas été là, ça aurait tout changé. Moi, je comprends ce que tu dis, mais c'est important aussi... Ce qui est important, c'est aussi que toi, tu vives. Tes parents, ils auraient sans doute été contents que tu sois sortie vivante. » C'est la fille au baladeur qui a parlé. Elle hésite sur les mots. Elle a sans doute peur de faire du mal. L'autre, une fille blonde, toute mince, enchaîne. Vivre dans un foyer, ça doit être pas drôle. Tu peux parler à des gens quand t'as trop de peine ? Je n'y arrive pas. Là, je suis désolée, c'est sorti tout seul. Mais faut pas être désolée, c'est normal. Avec ce qui t'est arrivé, c'est bien que ça puisse sortir, même si on se connaît pas.
D'accord, donc elle arrive quand même à exprimer sans s'en rendre compte quelque chose, voilà, qu'elle n'arrive pas en fait à parler de la vérité vraie de ce qu'elle ressent.
Voilà, donc elle le dit à des personnes qui n'ont rien à voir.
Et elle a besoin de mensonges pour extérioriser sa peine. Donc c'était « Une heure, une vie » par Jeanne Benhammer aux éditions Thierry Magnier à Paris. Le livre précédent, c'est « La tour Eiffel et le cocotier » de Maxime Vivas aux éditions du Léopard Masqué. Donc deux livres, deux éventuels petits cadeaux de Noël pour des lecteurs et des lectrices, donc adultes pour le premier et également adolescents, et puis adolescents pour le second, hein, puisque Ophélie voilà, nous a présenté ces deux livres. Merci Ophélie, je te souhaite un joyeux Noël. Et moi, je vous retrouve donc le jeudi 5 janvier sur Radio Occitanie. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous rappelle juste l'adresse du site. Donc, c'est page à page, l'adresse du site de l'émission. Donc, page à page toulouse.free.fr. Et vous pouvez me laisser vos messages, vos idées, vos suggestions ou ce que vous avez envie de me dire, tout simplement. Adiciat et à l'année prochaine.